RCN, près de chez vous, votre émission d'actualité. Magali Santulli.
La 22e édition du Jardin éphémère de Nancy se découvre jusqu'au 2 novembre sur la place Stanislas. La thématique cette année de graines d'art déco, car le jardin s'inscrit lui aussi dans le cadre du programme de festivités Métropholie qui rythme la métropole du Grand Nancy tout au long de l'année 2025. Isabelle Lucas est adjointe au maire déléguée à l'urbanisme écologique.
Nous avons voulu mettre à l'honneur l'art déco qui fête en 2025 ses 100 ans, donc étape majeure dans le monde des arts et de la culture. Mise en avant grâce au talent de nos jardiniers, à la créativité qu'ils ont fait preuve en s'inspirant de l'esthétisme de cette époque, avec les graphismes, les formes, les contrastes dans les couleurs, les lignes géométriques.
Les années folles sont mises à l'honneur avec des spectacles ou des ateliers.
Les années 20, ce sont les années folles où sont mis à l'honneur la culture, mais également l'aspect festif. Donc sur une scène locale autour de la statue de Stanislas sera présentée une soirée carabaret, le Nancy Jazz Poursuite, des concerts de jazz et des défilés de mode inspirés des années 20.
Une belle occasion de mettre en avant le savoir-faire des jardiniers de la ville.
Tout à fait, on remarque l'agencement, la présentation des couleurs, le réemploi aussi, toujours très important de signaler que tout est réemployé, la création végétale et en associant naturellement les différents partenaires, parce que ce jardin éphémère fédère énormément de partenaires. Cette année, nous sommes au nom de 26 partenaires. En exemple, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie qui a créé avec nos services le pavillon de graines qui va être placé devant l'hôtel de ville. En fin de compte, au travers du jardin éphémère, c'est la nature qui est mise à l'honneur, l'importance de la nature, et en plus ce jardin, c'est une exposition de la nature, mais il y a aussi des conférences scientifiques qui expliquent le lien de la nature, l'importance de l'écologie au sein de notre quotidien.
Plusieurs écoles du territoire ont contribué à ce projet.
L'important, c'est d'utiliser le local. Nous avons la chance sur Nancy et sur la métropole d'avoir des écoles. On a aussi l'Institut des jeunes sourds de Jarville-la-Magrange. On a l'établissement professionnel de Chaussel-Courcy. Donc on est nourri par toutes ces écoles, l'école d'architecture, enfin, et on a beaucoup de chance. Donc il est important de lier effectivement ces écoles, ce savoir-faire, de pouvoir travailler ensemble. Et c'est un atout pour notre territoire.
Un jardin qui s'inscrit dans les enjeux de transition écologique et de réemploi.
Tout à fait, les plantes, l'utilisation de l'eau dans les plantes, l'entretien des plantes est essentiel. Et d'ailleurs, sur ce jardin éphémère, va être présenté un endroit où diverses chênes, variétés de chênes vont être présentées. Et il y aura une conférence spécialement sur cet espace-là pour expliquer comment le végétal, le chêne, a son importance dans l'adaptation au changement climatique. Le réemploi, tout est construit de façon locale et tout est réemployé d'une année sur l'autre ou alors dans différentes manifestations au cours de l'année au sein de la ville de Nancy. Par exemple, dans les festivals embranchement que nous aurons en 2026 ou encore à l'occasion du livre sur la place avec les tables qui sont préparées avec des fleurs au centre de ces tables-là.
Un jardin avec également une dimension pédagogique.
La pédagogie, c'est vraiment les visites privées qu'on peut avoir avec les services ou encore lors d'ateliers ou des conférences systématiquement au sein du jardin.
Jérémy Noble, directeur écologie et nature à la ville de Nancy, nous explique que la forme du jardin vu du dessus s'inscrit dans la thématique Métropholie.
Alors ça a été organisé avec comme source principale d'inspiration le logo de l'opération Métropholie et le caractère très géométrique des formes de l'art déco, donc un carré dans le carré dans le carré. On pourrait voir ça, on publie souvent à deuxième semaine du jardin la photo vue de drone, donc vous verrez ça.
L'art déco est aussi évoqué à travers le choix des plantes.
Donc on a deux coloris différents. Un premier, donc vous aurez de nombreux massifs près du bassin où on est sur du blanc et du rose pour rappeler la façade art déco du musée aquarium, donc la dominante rose. Et après vous avez dans les autres endroits beaucoup de massifs avec de l'or, du blanc, de l'argent, puisque c'est des couleurs extrêmement utilisées pendant la période art déco. Mais une bonne diversité parce qu'on souhaite justement toujours parler de plantes sur le jardin et présenter des choses que les gens peuvent mettre dans leur jardin de particulier.
Au programme, 2800 mètres carrés de jardin, une centaine d'arbres, une douzaine de scènes, avec quelques curiosités à découvrir.
Tout d'abord, l'aspect vraiment intime de ce jardin. Vous passerez par des tunnels, vous aurez un labyrinthe, vous perdrez un peu, vous découvrirez au fur et à mesure de vos avancées le jardin. Donc vraiment ce côté intime et surprenant. Le pavillon de la graine, bien sûr, qui est une surprise, qui pour le coup se voit de loin parce qu'il fait 5 ou 6 mètres de haut, donc on le voit bien, mais voilà une curiosité sur la plastane, un objet non identifié artistique qui est posé là. Et évidemment, des curiosités végétales dont on pourra parler lors des visites et que les habitants pourront découvrir.
Un escalier permet de prendre de la hauteur.
C'est ça, un nouveau point de vue qui, à ma connaissance, alors à part pour ceux qui ont eu la chance de grimper sur l'Arquéret, quelques privilégiés, un nouveau point de vue sur la place, en hauteur, donc qui permet d'admirer d'un côté la statue de Stanislas, de l'autre l'Arquéret, et puis nos scènes végétales au pied, un grand bassin notamment.
Un jardin qui met en avant le végétal, mais pas que.
Oui, beaucoup d'autres éléments non végétaux. Donc des éléments métalliques, du travail du bois et aussi tous les éléments culturels, l'expo photo et les différents spectacles et moments de vie du jardin qui sont organisés sur cette édition.
Un jardin qui se découvre de jour et qui se redécouvre de nuit.
Oui, avec justement un gros travail sur l'éclairage qui est important puisque le jardin se vit, y compris la nuit, il ferme à 22h, on arrive dans la période automnale. Donc deux ambiances très différentes et c'est pareil, on a tenu aussi à éclairer dans les tunnels, pareil l'aspect intime de nuit, vraiment il faut le découvrir à ces deux moments.
Un jardin où l'on déambule, mais où on peut aussi prendre le temps de se poser avec de nombreuses assises.
On tient chaque année effectivement à avoir ces espaces de repos, de tranquillité, de presque méditation. L'idée de se croire vraiment en dehors de la ville. Alors, on bénéficie toujours de la place Stanislas qui est magnifique, mais on peut vite se penser ailleurs quand on arrive sur le jardin et quelque part profiter d'un moment de calme, c'est important.
Ce jardin a donc aussi une visée scientifique.
Oui, on a beaucoup de scientifiques qui gravitent autour de jardin, donc notamment des chercheurs du CNRS qui viendront faire des conférences. On a aussi AgroParisTech qui viendra nous présenter des dizaines d'essences de chênes différentes et on a travaillé avec eux à la composition d'une petite forêt. Voilà, donc beaucoup de scientifiques avec nous.
Stéphane Arter, chef du service des parcs et jardins de la ville de Nancy, revient sur la visée pédagogique du jardin.
On veut faire de la pédagogie, de l'initiation, de la sensibilisation à tout ce qui nous bouge, nous, c'est-à-dire à l'écologie, aux plantes, à la diversité des plantes. Il ne faut pas qu'on fasse ça de façon trop didactique. Il faut juste, en tout cas c'est mon avis, amener le public vers le beau, vers l'esthétique. On essaye de soigner ça sur le jardin éphémère pour, par petite dose, amener vers de la pédagogie. Mais ça suppose aussi avoir les bons interlocuteurs, les bons partenaires, quelque part, pour aller vers ce qui nous bouge. Et donc, on invite des scientifiques du CNRS, on invite des jardiniers professionnels, on invite des artistes aussi qui viennent parler en même temps de nature, par des voies détournées. Un photographe comme Martin Beka, lui, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse prioritairement au végétal, mais par son travail, va ramener le public vers le végétal à un moment donné. Et c'est par petites touches comme ça qu'on pense qu'on va sensibiliser. Et puis, simplement, en montrant la diversité du végétal. Quand on a une forêt de chênes avec cette diversité de formes de feuilles, alors on peut commencer juste à expliquer que ces arbres multiples, ce sont des chênes. Ah bon, c'est des chênes, mais ils n'ont pas les mêmes feuilles. La feuille de chêne, c'est pas ça. Si, ça peut être ça. Et donc ça, c'est simplement en faisant une mise en scène, quelque part, une présentation, qu'on va faire de la pédagogie et qu'on va pouvoir après aller chercher quelqu'un d'AgroParisTech qui va nous parler de la diversité des chênes dans la fonction biologique ou botanique et après parler de réchauffement climatique par exemple. Vous voyez, c'est pas du tout le cas de... On est vraiment dans un endroit qui est évident, facile pour raconter et pour faire de la pédagogie.
Un jardin qui se découvre à travers les 5 sens.
Oui, ça c'est important aussi parce que évidemment il y a le visuel, c'est toujours le point de départ du jardin, on va structurer par le visuel, mais après on a l'éclairage, on va l'éclairer, on va le faire vivre de nuit et ça, ça crée d'autres rapports sensuels quelque part au jardin et au végétal. Le son aussi est important, donc le son c'est quelque chose qui est évocateur, qui va faire que le public, que le visiteur va se plonger dans un univers au cœur de la ville avec les bruits ambiants mélangés, mais il va avoir peut-être un endroit un peu plus protégé, c'est la fonction d'un jardin, pour venir écouter. Et on peut toucher aussi le végétal. Ça, on le fait à travers des visites avec des personnes non-voyantes, mais tout le monde peut le pratiquer, si tant est qu'on n'avait pas arraché évidemment les plantes. Toucher les plantes ou toucher les matériaux. Toucher simplement du bois. Certains types de bois, c'est plus ou moins rugueux. Le métal aussi, la découpe d'un métal, toujours avec délicatesse évidemment. Ça permet de développer des sens. L'olfactif est plus compliqué, mais il existe sur le jardin. Quand vous venez vous promener ici après, alors j'espère pas trop de pluie, on en a eu beaucoup, mais on peut encore en avoir, vous allez avoir des odeurs qui vont se développer. Et ça, c'est génial parce que vous êtes encore une fois en plein centre-ville et vous avez une première approche de ce qui peut se développer en milieu naturel, enfin en tout cas en campagne.
Un jardin intimiste au sein duquel il faut pénétrer pour en découvrir tous les secrets.
C'était notre proposition. C'est un peu quelque chose que je voulais tester en tout cas. On l'a jamais fait, on n'a jamais ceinturé quelque part le jardin comme on l'a fait cette année, on l'a jamais protégé autant. Mais ça, peut-être que c'est un peu le côté c'est caché, on a envie d'aller voir à l'intérieur. Quelque chose qui pousse le public à rentrer pour aller découvrir des scènes et ne pas embrasser du regard la totalité d'un jardin. Aller voir des petits détails. Quand vous allez aller dans la forêt, par exemple, qui est juste derrière nous, dans ces petits espaces, comme des clairières un peu, vous allez vous installer là. Je pense que ça peut développer justement un imaginaire en relation végétale qui est différente. Et une sensation aussi de ne pas être sur la place Stanislas.
Retrouvez cette émission en podcast sur www.rcn-radio.org.